I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Chasseur me tuera, lapin entrera, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Diane a 14 ans lorsque les premiers symptômes de sa maladie se révèlent. Les douleurs vont alors s'intensifier jusqu'à l'obliger à subir de nombreuses opérations chirurgicales. À 26 ans, alors qu'elle n'avait pas encore pensé à son avenir familial, le verdict tombe, Diane est stérile. C'est ce qui aura déclenché son envie de devenir maman plus que tout, malgré la maladie, malgré les conséquences. Dans cet épisode, Diane nous explique comment sa vie a été mise entre parenthèses depuis de nombreuses années. Elle nous parle du soutien sans faille de son mari, de leur décision pas toujours bien vue de faire un enfant et comment elle construit sa vie de maman dans la maladie. Bonne écoute. Bonjour Diane, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Bonjour, merci à toi.
Alors tu souffres d'une maladie qui par période te fait énormément souffrir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette maladie ?
Alors c'est la gigascure de la face et la névralgie du trijumeau, donc de façon chronique. Tous les jours, donc de 10 à 15 crises par jour, donc maintenant 9 grâce à mes dernières opérations. Alors comment l'expliquer, donc ce sont des coups de poignard au niveau de l'œil droit ou de l'œil gauche. Ce sont des douleurs qui sont terribles. J'ai du mal à en parler parce que c'est des douleurs qui sont insoutenables. Et c'est plus la nuit, donc mes crises se focalisent la nuit. Heureusement que j'ai l'aide de mon mari qui m'aide beaucoup. J'ai des piqûres aussi qui m'aident principalement, mais le problème c'est que on a le droit à que deux piqûres par jour.
C'est des piqûres de quoi? D'antidouleur?
On peut appeler ça des piqûres d'antidouleur. Ce sont des triptans, donc ça calme la douleur et pour le coup ça calme en 5 minutes.
Ah oui.
Mais donc c'est ça qui est assez hallucinant. J'ai le droit qu'à deux piqûres par jour.
Donc tu dois choisir la crise que tu vas soulager.
Oui, je choisis la crise que je dois soulager. Donc je choisis la plupart du temps les crises doubles. Donc celles qui sont associées en fait à gigascure de la face et névralgie du trijumeau. La névralgie du trijumeau, c'est coups d'électricité que j'ai au niveau sa part du cou. Jusqu'au niveau des oreilles, du nez, de l'aile du nez et jusqu'à l'œil. Et donc c'est associé à la gigascure de la face et je choisis toujours, pratiquement, je fais toujours mes piqûres quand les deux sont associés parce que là c'est le plus terrible. Je peux pas poser le pied par terre, je reste comme ça tout un week-end et je me douche pas, je mange pas, je peux pas voir mon fils et c'est le pire.
Et c'est une maladie rare ou...
C'est une maladie orpheline. Après, il y a un sous-diagnostic. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils sont atteints de cette maladie parce que les neurologues n'arrivent pas à diagnostiquer. Et c'est vraiment pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Parce que plus on arrivera à le diagnostiquer, plus la prise en charge sera rapide et... au moins, on est soulagé partiellement. Et il y en a d'ailleurs qui sont très bien soulagés parce que les traitements de fond fonctionnent pour beaucoup. Moi, j'ai des traitements de fond qui permettent de baisser un petit peu mes crises. Et pour certains, qui permettent de baisser significativement les crises. D'où l'importance de se faire bien diagnostiquer.
Pourtant, elle porte un nom, mais c'est quoi? C'est la douleur qui est plus ou moins importante et donc les neurologues, ils savent pas vraiment...
C'est qu'il y a tellement de maladies neurologiques... que les neurologues ne peuvent pas n'arrivent pas à savoir exactement quelle maladie y associer, je pense, et ne sont pas encore j'allais dire qualifié, mais c'est pas vraiment ça. On leur a pas encore appris encore cette maladie, je dirais. Aujourd'hui, je trouve que de plus en plus les neurologues en ont connaissance. Mmh. Mais moi, je suis allée aux urgences plusieurs fois. Au tout début, juste avant mon diagnostic, j'ai été quand même plusieurs fois aux urgences et on m'en a jamais parlé.
Ouais.
Ils ne savaient même pas ce que j'avais. Et quand j'étais diagnostiquée, je disais que j'avais une agilation de la face, ils ne savaient même pas ce que c'était.
Ah oui.
Donc c'est que, en fait, ils ne connaissent pas.
Et toi, c'était il y a combien de temps, du coup? Quand est-ce que ta première crise de douleur est apparue?
Alors, pour la névralgie du trijumeau, c'était en 2004.
Et donc les coups d'électricité dans le cou.
Tout à fait. Les coups d'électricité, je m'en rappelle encore, avec mes parents, parce qu'on a construit la maison de mes parents, et quand on était sur le terrain de mes parents, j'avais des coups d'électricité, et c'est terrible parce que ça vous prend, et on est comme un gamin.
T'avais quel âge?
J'avais 14 ans.
D'accord.
Et je savais pas ce qui m'arrivait. Et c'est le plus dur, quand on sait pas ce qui nous arrive.
Ouais.
Puisqu'on est enfant et puis on ne sait pas ce qui se passe. Mmh. Et pendant des années, donc du coup, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je souffrais. On m'a enlevé les dents de sagesse parce que du coup, ça atteint. En fait, les coups d'électricité, ça atteint les dents, en fait, au niveau des dents, de la dentition, enfin, au niveau de la mâchoire surtout. Donc, on ne savait pas ce que j'avais. Donc, on m'a enlevé les dents de sagesse pour rien. Bon, après, il y a un moment, de toute façon, on doit les enlever, mais bon, on les enlevait pour rien, en tout cas, à ce moment-là. Et du coup, j'allais chez les stomatologues, chez les dentistes, chez un tas de spécialistes, pour rien, en fait. Et en 2013, j'ai eu ma première crise d'allergie vasculaire de la face, et je crois que j'ai compris, en fait, ce que c'était de vraiment souffrir.
Ah oui.
Ouais, première nuit. Et là, avec mon mari, je crois que j'ai cru que j'allais mourir. Parce que... c'était la nuit... je suis la pire de ma vie, ouais. Je savais pas, en fait, c'est ça, je savais pas ce que j'avais.
Mmh.
Et lui, il savait pas ce que j'avais. On était insouciants, hein.
T'avais quel âge, là?
Donc, 2013, c'est simple, en fait, je suis née en 1990, donc j'avais 23 ans. On faisait la fête, hein, nous, à cette époque-là.
Ouais.
Je n'ai pas honte de le dire, on faisait des soirées, on buvait, etc. C'était la vie d'étudiant.
Mmh.
Et cette nuit-là... je suis bouffée une nuit où je me tapais la tête contre les murs parce que je souffrais le martyr et je cherchais en fait à me faire souffrir autre part que dans la tête parce que j'avais l'œil qui gonflait, je voyais plus rien tellement mon œil était gonflé et je savais pas ce que j'avais. Je pensais que j'allais vraiment mourir, donc on a appelé les urgences qui elles ne sont pas arrivées comme ça parce que les urgences n'arrivent pas c'était le SAMU, pas les urgences. Et c'est passé, là, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des crises d'allergie vasculaire de la face, il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas eu une crise, en fait.
Ah oui.
Toutes les nuits, ça a commencé. Par les nuits, toutes les nuits. Et ça a mis un an, en fait, à ce qu'on me diagnostique, parce que je suis tombée dans la rue tellement j'avais des crises, et qu'on m'a ramassée, donc on m'a amenée à la Riboisière, que je conseille, c'est les urgences de la Riboisière. Et donc j'étais en pleine crise, j'avais la tête complètement... défoncé, on dirait le mot, et l'œil complètement arraché, enfin, c'était horrible, la face toute rouge, défoncée de douleur, hein.
Mmh.
Et donc ils m'ont vu, et donc ils m'ont perfusé, ils m'ont fait des examens, et j'ai vu un neurologue qui était spécialisé au niveau de la douleur, et qui m'a dit vous avez une allergie vasculaire de la face. Et là, pour cette maladie-là, j'étais contente de savoir ce que j'avais.
Ouais. Enfin, poser un diagnostic.
Ouais. Pourtant, pour la névralgie du trijumeau, on me l'a diagnostiqué plus tard, je l'ai mal pris. Mais pour celle-là, je l'ai bien pris parce que je savais enfin ce que j'avais. Je me suis dit, on va me soigner. Ça y est, c'est le début.
Mm.
J'étais heureuse. On m'a dit, on va vous prendre en charge et ça va aller mieux. Donc j'étais heureuse, et puis aussi par rapport à ma famille, en fait, donc j'avais perdu aussi 15 kilos en un an.
Oui.
J'étais, puisque moi je pesais 60 kilos à l'époque, j'étais vraiment beaucoup plus... Et là je pesais 45 kilos, donc j'arrivais plus à manger parce que cette maladie aussi nous empêche de manger puisque ça atteint la mâchoire. Et donc on m'a perfusé, on m'a nourri par perfusion parce que j'arrivais plus à manger. Et on m'a donné le sumatriptan. Et là, je me suis piquée pour la première fois et enfin quelque chose m'aidait en 5 minutes.
Mmh.
Ouais, j'en ai pleuré. Voilà, de soulagement. Je me suis dit, mais pourquoi pendant un an on m'a pas donné ça?
Ouais.
C'était magique. Ouais.
Et les médecins, le fameux neurologue, il était rassurant? Est-ce qu'il t'a dit que les prochaines crises seraient. Plus douces, on va dire, ou moins fortes, ou qu'elles allaient s'arrêter un jour? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à ce moment-là?
Super rassurant. Ils m'ont dit, on va vous donner des traitements, ça va aller mieux, il n'y aura plus de soucis.
Ok.
Et là, ça a commencé les traitements. Et ça a été difficile, en fait. Alors, j'étais contente. Hein. Alors, moi, j'y suis allée à fond. C'est-à-dire que j'ai pris tout ce qu'ils m'ont... Ouais. Tout ce qu'ils m'ont proposé. Alors là, moi, je voulais traiter. Hein. Mais on va dire que les traitements, c'est un autre combat. Parce que faut pouvoir les prendre, quoi. Et puis, aux urgences à Ariboisière, ils font pas les choses à moitié. Donc, c'était des antiépileptiques. Mmh. C'était des traitements cardiaques. Parce qu'en fait, pour cette maladie-là, il n'y a pas de traitement vraiment pour cette maladie. Donc, c'est des détournements de traitements cardiaques, antiépileptiques, le lithium... Mais à dose hallucinante.
Mmh.
Vraiment, je prenais 1080 mg de lithium, des doses mais hallucinantes. Même, je sais pas, un humain. J'allais à la pharmacie, ils devaient appeler mon médecin pour me donner, parce que pour eux, c'était pas possible de donner à ça un humain.
Ouais.
Voilà. Et du coup, je faisais des œdèmes aux membres inférieurs, je m'évanouissais tout le temps en pleine rue, je perds des pertes de mémoire, je perdais mes mots, je perdais mes cheveux, je continue à perdre du poids. En fait, j'avais des choses en plus. C'est ça qui se passait. J'avais des choses en plus de ma maladie.
Et du coup, t'as mis complètement ta vie entre parenthèses à ce moment-là?
Non, mais ma vie a été finie à partir du moment où j'étais malade.
Ouais.
Faut quand même se dire. J'ai quand même réussi à avoir mon BTS. Je faisais un BTS en alternance. Et pendant l'année où j'ai pas été diagnostiquée, je sais pas comment j'ai fait, j'y suis allée en rampant, je vomissais et tout, j'ai réussi à avoir mon BTS.
Ouais.
Et j'ai voulu faire une licence. Mais c'est du coup, ça a été la licence a été au moment où j'ai commencé ces traitements. Et j'ai pas réussi.
Ouais.
J'ai pas réussi parce que c'était les traitements en plus. Alors on nous dit, mais pourquoi tu prends ces traitements? Ça te pourrit en fait. Mm. Bah ouais, mais j'ai envie de me soigner aussi. Donc j'ai pris ces traitements, c'était les médecins, puis on fait aussi, voilà, et puis ça soigne, ça permet de traiter aussi des malades.
Mmh.
Moi ça m'a pas aidé les traitements, mais je ne dis pas que ça n'aide pas. Et puis il y a certains, puis on s'est rendu compte que certains traitements quand même me baissaient quelques de crises.
Ah oui.
Mais bon, on parlait sur 15 crises, parce que j'en suis finie à 15 crises par jour, bon, ça baissait de 2 crises. Par jour. Mais bon, ça me donnait tellement de choses à côté que bon, c'était à se demander si vraiment c'était bénéfique.
Ouais.
Voilà.
Et du coup, tu l'as fait pendant combien de temps?
J'ai eu un an. Tous ces cachets, j'en suis venue à prendre 25 cachets par jour.
Ouais.
Jusqu'au moment où on m'a proposé la première opération. Alors, j'ai essayé aussi la médecine parallèle, etc., avant la première opération, justement. C'était le bon moment d'essayer la médecine parallèle. Ça va fonctionner. Alors, j'ai essayé plein de choses, sophrologie, hypnose, j'ai vu aussi un magnétiseur, plein de choses. Puis ça en est venu, la première opération, on m'a dit il est temps de faire la première opération, j'en pouvais plus.
Mais les médecins, ils connaissaient d'autres cas qu'ils avaient résolus grâce soit au traitement ou soit grâce aux opérations, ils disaient
Grâce aux médicaments, bien sûr. Alors, il y a les périodiques et il y a les chroniques. Les périodiques, c'est avoir des crises, une période de crise, 2 mois dans l'année.
D'accord.
Alors là, les traitements marchent très bien sur eux, parce que bah, on n'est pas très... Enfin, je ne dénigre absolument pas. C'est des gens qui souffrent beaucoup. Mais en tout cas, le corps est beaucoup moins résistant.
Mmh.
Donc ça marche très bien. Et il y a les chroniques. Et sur les chroniques, sur certains chroniques, les traitements marchent très bien. Mais en tout cas, il s'avérait que sur moi, ça ne marchait pas. Donc bien sûr, ça marchait sur certains, mais en tout cas, sur moi, ça ne marchait pas. Mmh. Et quand ça... Donc on m'a diagnostiqué, en gros, pharmacorésistante au traitement. Et quand on diagnostique sur une personne pharmacorésistante, ben on passe à la case supérieure, c'est-à-dire la première opération. La première opération, c'est la stimulation occipitale, enfin, des nerfs occipitaux, c'est-à-dire qu'on vous met un boîtier qui est comme une pile reliée. Donc il y a un câble qui est relié au boîtier et par deux électrodes au niveau des nerfs occipitaux qui sont derrière le cou.
Oui, parce qu'en fait, la maladie... Tu me dis si je me trompe, mais c'est des nerfs qui se coincent, qui se bloquent, c'est ça? Enfin, c'est lié aux nerfs, en tout cas.
C'est au niveau de l'hypothalamus. Donc, c'est pas vraiment lié aux nerfs.
D'accord.
Mais c'est la maladie, on la connaît pas trop, hein, faut dire franchement les choses. Je dis que c'est ça, parce que, bon, on m'a implanté une électrode dans le cerveau vers la fin, donc j'espère que c'est ça. Mais, très clairement, puis j'ai deux maladies, donc il y a un moment... Mais très franchement, on se pose très... Enfin, ouais, on se pose la question. Alors, c'est lié aussi aux nerfs, on pense, mais... ouais. C'est lié aux nerfs, c'est lié au niveau de l'hypothalamus, voilà. Après, je crois que moi, en tout cas, mon dernier chirurgien, il dit que, bon, on sait pas trop vraiment ce que c'est, on essaye de traiter la douleur. Voilà.
D'accord.
Okay. C'est tout. Et les deux électrodes sont au niveau des nerfs occipitaux, donc effectivement, c'est bien lié aux nerfs, en tout cas selon eux. Mais les opérations que j'ai faites après, ils mettent au niveau de l'hypothalamus, donc c'est pas très logique.
Mmh. Et du coup, à quel moment le sujet de la maternité il est arrivé au sein du couple ?
Alors le sujet de la maternité, ça s'est fait quand j'ai fini... Mais j'ai passé un an à l'hôpital, un an et demi à peu près.
Okay. Après ta première opération ?
Non, après ma 7 opérations.
D'accord.
J'ai eu 7 opérations en gros. Parce que
sur une année et demie ?
Une année et demie à peu près, un peu plus d'un an en fait.
Okay.
Donc j'ai eu 5 opérations parce que ça s'est très mal passé, etc. J'étais hospitalisée. Je partais pas du tout pour me faire opérer moi cette fois.
Hein. Bah oui.
Non. Moi, on m'a proposé une opération. Jamais, je me suis dit, mais on me fait opérer une fois. J'ai été opérée une fois. Le boîtier n'a pas fonctionné, on m'opère une deuxième fois. J'avais pas le choix, le boîtier marchait pas. Je me suis dit, bah, il faut bien que je me fasse, voilà, pour que ça fonctionne. Donc je laisse une chance, on m'opère une deuxième fois. Là, c'est des câbles qui se fendent en deux, et puis les électrodes qui tombent. On me dit, bah, faut vous opérer une troisième fois.
Tu restais à l'hôpital à chaque fois entre les opérations ?
J'avais une petite coupure d'une semaine. Okay. Voilà. Et puis c'est surtout que j'ai changé d'hôpital.
Ouais.
Parce que j'avais plus confiance.
Ouais.
Voilà. Donc je suis allée à Nice. Les deux premières c'était à Paris et je suis allée à Nice. J'ai changé. Donc je crois que j'ai fait tous les hôpitaux de France. Donc je suis allée à Nice. Et là on opère deux fois à Nice puisqu'il faut en fait enlever le matériel et remettre le matériel. Le boîtier à la base était à la fesse et là on me met dans le ventre. Et là, ils voient que c'est de la boucherie ce qu'on a fait parce que c'était une catastrophe. J'avais une infection, le câble était donc à la base, les électrodes qui étaient à la base dans mon cou, en haut du cou, sont en bas du cou, ça faisait deux boules, c'était pratiquement ressorti, c'était une catastrophe. Donc ils m'opèrent, ils rafistolent tout le truc. Et là, le problème, c'est que deux mois après, je fais une infection au niveau du boîtier du ventre. Donc je reste avec la cicatrice qui est complètement ouverte pendant 2 mois.
Mmh.
Et là, donc, du coup, en janvier, on décide de tout m'enlever. Donc je suis opérée cette fois à Paris. Dans un autre hôpital, bien évidemment, pas à Foch. Et du coup, donc on m'enlève tout. Et là, j'ai 15 crises. Ça s'est complètement aggravé puisque j'étais pas à 15 crises. Hein. Au tout début, j'étais à 5-6 crises. En fait, tout s'est aggravé à cause de ces opérations-là. Je pense la fatigue, je sais pas. Et là, on décide d'aller à Grenoble très bon hôpital, un très très bon chirurgien, neurochirurgien. Là, il me dit, il faut vous opérer encore, parce que c'est une catastrophe, tout ce qui s'est passé. Là, il faut faire... Alors là, c'est une très très grosse opération, puisque là, on va dans le cerveau. Mmh. C'était pas dans le cerveau, à la base. Et on fait deux opérations. Donc, j'étais à 5 opérations, donc là, on serait à 7 opérations. On vous met une électrode dans le cerveau. Là, il faudrait vous opérer dans un centre de recherche, ça s'appelle Clinatec, à l'aide d'un robot.
Ah oui.
Et ce serait 13 heures d'opération. Avec on mettrait des vis. Donc là, par contre, c'était très difficile, on m'a rasé complètement la tête. Mmh. Ça, c'était très dur. Pour une femme, c'est pas facile. Mmh. Donc j'ai été opérée une première fois où on m'a rasé complètement la tête, on m'a mis des vis dans le crâne. Je les ai gardées pendant 2 jours, les vis. Sous anesthésie locale. Donc on entend tout, on voit tout. On sent tout aussi. Comme une visseuse. Hein. Ça a été une opération... Bizarrement, ça a été une opération, je crois, une des plus difficiles. Pourtant, c'est sous anesthésie locale. Hein. Et puis ça a duré 5 heures, par rapport à l'autre qui a duré 13 heures.
Mais l'autre était sous anesthésie générale.
Ouais. Mais sentir qu'on me mettait des vis dans le crâne, ça a été terrible. Et après, 2 jours après, rebelote, une opération de 13 heures. Horrible. Et puis, ça a été horrible. Une opération de 13 heures. Les opérations du crâne, c'est horrible. Ça fait très très mal. Et puis après, 2 mois après, c'est là où on m'avait dit que j'étais stérile. Parce qu'on m'opérait au niveau du cerveau et on mettait une électrode au niveau de l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, c'est un grand lien avec tout ce qui est hormones. D'accord. Et donc on m'annonçait que j'étais stérile.
T'avais quel âge à ce moment-là ?
J'avais 26 ans.
Ok. Et t'avais déjà un projet
Pas du tout.
Non. Donc on t'annonce ça avant même que tu y aies pensé.
Ouais.
Comment t'as réagi ?
Eh ben, je lui ai dit d'accord.
T'as dit d'accord ?
Ouais.
C'était pas grave
J'étais tellement mal.
Ouais.
Et bizarrement, hein. Et 2 mois après, alors j'étais chaud, j'étais maigre, je regarde des photos et j'étais souriante. Hein. Et je vais chez ma cousine pour passer des vacances et je vois son fils. Et j'ai dit à Xavier, je veux un enfant. Et c'est à partir de là que. Et je savais pourtant que j'étais stérile. Hein. Mon neurochirurgien m'avait bien dit. Puis on avait eu un autre neurochirurgien qui m'avait dit « Vous ne pourrez pas avoir d'enfant. » Et mon mari m'avait dit « Mais on l'aura, notre enfant. »
Hyper confiants tous les deux sur le sujet. Quoi.
Ouais. Lui plus que moi. Et je crois que j'en avais parlé à plusieurs copines. Je leur avais dit, ils m'avaient dit, mais t'es folle. Je ressors quand même de 2 opérations. Mais moi, je me disais, de toute façon, on se protège pas. J'aurai jamais. Enfin. Donc on est parti en PMA, quand même, parce qu'on s'est dit, on va pas. On faisait pas du tout des stimulations hormonales ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on voulait faire les choses bien. Et faire quand même des choses bien. Je savais quand même que je ressortais de 2 énormes opérations. Et puis j'avais vu, et on était allé voir mon neurochirurgien pour le prévenir qu'on voulait un enfant.
Ouais, qu'est-ce qu'il a dit ?
Et je crois qu'il m'a. Il m'a dit, je crois qu'on était un peu fous. Ouais, qu'il m'a dit qu'on était un peu fous. Mais écoute. 7 mois après, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et c'est un miracle.
Donc, avec le parcours de PMA ?
Le parcours de PMA, mais qui a... Alors si, on m'a débouché les trompes. La trompe gauche qui était bouchée. Alors, est-ce que c'est un lien avec ma maladie ? Je sais pas. Mais en tout cas, on m'a débouché la trompe gauche et le même cycle, je suis tombée enceinte. Donc en gros, j'étais vraiment au tout début de ce parcours-là. En gros, juste après, Xavier, donc mon mari, allait faire... parce que lui aussi, hein, il passait par là. Je veux dire, l'homme doit passer par là. Mm-hmm. Il devait faire les examens. Moi, j'avais fait les examens juste avant au niveau des tests hormonaux. Et puis après, je ne sais pas ce qui allait se passer, mais je sais pas, dans le parcours PMA ce qui se passe, mais...
Non, mais t'es tombée enceinte avant, quoi.
Je suis tombée enceinte juste avant.
Ok. De manière totalement naturelle.
Ah oui, il n'y a pas plus naturel que ça.
Ouais. Génial.
Oui. La grossesse s'est passée super bien au début.
T'avais pas de crise?
Alors, j'avais 5 crises, 4-5 crises. Pour moi, alors je, encore une fois, je dénigre absolument pas les gens qui ont 4-5 crises, mais pour moi qui pars de. Je partais de 15 crises par jour, donc voilà, 4-5 crises par jour, je le vivais super bien et on me voit sur les photos, j'avais pris mes 20 kilos. J'ai des joues de hamster, c'est hallucinant.
Tu revivais en étant enceinte.
Un truc de fou. On ne reconnaît pas sur les photos.
Et du coup, tu pouvais pas prendre tes traitements à ce moment-là?
Non.
Les médecins avaient dit quoi? Est-ce qu'ils t'avaient mis en garde de quelque chose?
J'ai fait, encore une fois, la folle, c'est-à-dire que j'ai voulu une grossesse tout à fait normale. Mm. Et j'ai été complètement folle. J'ai fait une croix sur les neurologues, je n'ai pas voulu voir de neurologue. Quand on me disait il faut une grossesse, bah, c'était vrai, hein. Il fallait une grossesse patho. Alors j'étais en grossesse pathologique, bien évidemment, de toute façon, j'avais pas le choix. Mais il aurait fallu un suivi beaucoup plus poussé, c'est logique, avec le recul. Je ne voulais pas, je voulais que ce soit normal. Et puis j'avais 4-5 crises, alors bon, je me disais, je sentais pousser des ailes, moi. Bien sûr.
Et alors à quel moment ça s'est aggravé?
Donc je suis tombée enceinte en janvier, et déjà en juillet... ça commençait à pas trop aller, c'est-à-dire que j'arrivais plus trop à manger. Alors bon, j'avais bon appétit, hein. J'avais super bon appétit pendant toute ma grossesse, je faisais ce que je voulais, je dormais super bien, alors que moi c'est le gros problème, c'est la nuit. Je dormais très très bien, pourtant la grossesse on dit la nuit c'est pas terrible, alors que moi je faisais super nuit. Et mi-juillet, fin juillet, ça commençait à être la cata, et août, dans cette descente aux enfers. Ça a été... les crises ont monté à gogo, et le problème, c'est que je pense que quand on s'habitue à une baisse de crise pendant des mois, puisque la grossesse, en fait, c'est quand même pratiquement un an, même si moi, elle a duré... elle est assez écourtée, mais c'est long. Je me suis habituée, en fait, à ce confort. Pour moi, c'était un confort, en fait, hein.
Ouais.
Je sais que pour quelqu'un, j'aime pas dire quelqu'un normal, mais pour quelqu'un qui n'est pas malade, c'est normal, mais moi, c'était pas. Je me suis habituée. Et du coup, c'était une grosse claque. Et du coup, je ne pouvais pas reprendre les médicaments. Les piqûres, je les voyais de loin et je pouvais pas. Donc j'ai voulu prendre sur moi, comme à mon habitude. J'ai pris sur moi. Jusqu'au moment où je me suis écroulée, j'étais marquée encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on m'a retrouvée dans ma salle de bain inerte.
Voilà. Ah, t'étais à combien de mois?
On m'a retrouvée à 30 semaines, à peu près 31. Et on m'a amenée aux urgences. Et là, on pensait qu'on m'avait battue, pour te dire.
Ah oui?
On pensait qu'on m'avait battue. J'ai dit que non, plein de fois, mais en fait le problème c'est que j'étais pas en plus à même de répondre. Donc, puisque j'étais pas consciente en fait. Donc, heureusement que Xavier est arrivé très vite. J'étais très floue en fait, moi, je me rappelle plus trop. Il a fallu vite prendre une décision de savoir ce qu'il fallait faire. Alors pendant une semaine, on m'a remise sous traitement. Parce que c'est pas moi qui ai pris la décision, parce que moi je l'aurais jamais fait, mais je n'en veux pas à Xavier d'avoir pris cette décision, parce que maintenant je pense que c'est la bonne, à l'époque je ne pensais pas, parce que je pensais mettre de moi-même, voilà. Et puis je pensais plus à Raphaël qu'à moi, alors que je pense qu'il faut penser aux deux, on est reliés, moi je vais pas bien, lui il va pas bien.
Ton bébé, voilà. Oui.
Ben, bien sûr. Donc ils m'ont remis sous traitement. Le problème c'est que quand tu remets sous traitement ce genre de traitement là, pour le bébé ça va pas. On m'a mis sous morphine, on m'a remis sous antiépileptique.
Ah oui.
Et il a fallu vite prendre une décision de savoir s'il fallait pas faire sortir, quoi. Parce que ça allait pas. Enfin, ça faisait pas non plus. Déjà, lui, il se portait pas bien. Mmh. Et je pense qu'en fait, c'est fou parce que je pense qu'il ressentait que je souffrais. Et que la grossesse, c'est que je souffrais. Il y a une montée d'hormones au premier ou deuxième trimestre. Mmh. Et au troisième, et ça, je savais pas. Et si j'avais été bien suivie, je pense que j'aurais su. Au troisième trimestre, les hormones baissent. Mmh. Je sais pas si tu sais, mais. Si tu fais un test de grossesse au troisième trimestre, il peut être, enfin, tu peux ne pas être enceinte sur le test. Et ça, je savais pas. Ouais. Et pour ma maladie, les hormones jouent beaucoup un grand rôle. Et du coup, c'est ça en fait, c'est les hormones qui m'ont permis de tenir toute ma grossesse. Sauf qu'au troisième trimestre, j'avais plus ces hormones, j'avais plus ce boost, ce. Mmh. Et du coup, bah, ça me permettait plus de tenir. Quoi. Donc, il a fallu prendre une décision et. Donc vers 33 semaines, ils ont décidé de le sortir. J'étais pas vraiment d'accord. Hein. Je pense que n'importe quelle maman ne veut pas.
Oui, parce qu'il y avait un risque du coup.
On m'a fait les bien sûr, ouais.
Mm-hmm. Un risque. C'est prima.
Ouais. Ouais, il y a un risque et puis il était. Quand on met de la morphine, du tramadol, je veux dire, pour moi je l'avais drogué mon fils. Mm-hmm. On me l'avait dit, hein. On m'avait dit, quand il va naître, c'est possible qu'on doive le. Comment ça s'appelle
sevrer.
Le sevrer. Et ça. Au niveau culpabilité, je pense qu'on a été au must du truc, mmh. quoi. Parce que pour me soigner, il fallait lui faire du mal. Pour moi, c'était ça. Donc, je me disais, ma maladie, en fait, lui fait du mal. Mmh. Donc, c'est moi qui ai choisi de tomber enceinte. J'aurais pas dû.
T'avais pensé à tout ça avant de faire un bébé ? Est-ce que le sujet avait été abordé avec ta
mère ? Oui, parce que nos amis nous avaient bien. J'avais beaucoup d'amis, enfin certains, pas beaucoup. J'avais certains amis qui nous avaient dit vous êtes fous. Tu te rends pas compte, Diane, t'es malade, tu. Parce que je veux pas faire culpabiliser nos amis, hein, mais ça nous avait fait du mal. Mmh. Parce que nous, on se disait on a le droit à ce bonheur, on souffre déjà assez.
Ouais.
Mais et puis on y a repensé en fait parce qu'on s'est dit mais en fait ils ont raison parce que regarde on n'est pas capable en fait et en fait c'est pas on n'y est pas capable c'est je suis pas capable d'aller au bout de ma grossesse et de prendre assez sur moi pour aller au bout sans médicaments et ça c'est super compliqué même aujourd'hui hein.
Tu t'en veux encore?
Ah, mais la culpabilité, elle sera jusqu'au bout.
Ouais.
Ça. De pas avoir. On a beau bien ce qu'on veut. C'est super difficile. Donc, ça. Donc, du coup. Je pense qu'on veut le mieux pour son enfant. Et ça, c'est pas simple. Parce que c'est le mieux, ça aurait été d'aller jusqu'au bout. Et de pas avoir pris de médicaments, enfin, d'avoir peut-être dit non, d'avoir réussi à avoir dit non. Mais... Après, je sais qu'on me dit, t'avais ce que t'as pu, mais la culpabilité, je pense que pour une maman, c'est comme ça. Mmh. Donc, on a réussi quand même jusqu'à 34 semaines à tenir. Mais bon, c'était le maximum. Donc, j'ai accouché à 34 semaines, par voie basse.
Okay.
C'était le mieux pour lui.
Ouais.
Donc.
Quels étaient les risques à ce moment-là pour lui que tu accouches plus tôt ?
Pulmonaire. Oui, tous les risques pour un prématuré, de toute façon.
Mmh.
Qu'il puisse pas respirer, qu'il puisse pas manger par lui-même. Qu'il ait un poids trop faible. Alors on avait fait une échographie avant, ils nous avaient dit qu'il faisait 2 kilos, donc bon, ça nous avait bien rassurés. Mais je pense que t'as toujours peur.
Ouais.
Son cerveau, tous les risques qui font que ton bébé, en fait, il n'est pas à terme, quoi.
Mmh.
C'est sûr, c'est ça. Déjà, quand t'accouches, t'as un petit peu peur, quand même. Pour toute maman, je pense. Même quand il est à terme, en fait. Hein. Mais quand il est prémar. Et quand t'accouches, bah, en fait, on prend ton enfant.
Ouais.
Et ça, je souhaite à personne, en fait.
Même t'es pas... Dieu.
Ah, mais même pas à mon pire ennemi. Sincèrement, c'est horrible. C'est un déchirement.
T'as eu le temps de l'apercevoir ou de...
Alors, on nous l'a donné avec Xavier. Ça, merci. Ça, on a, donc, j'ai pu l'embrasser. Mais après, c'était fini, quoi. Mm. Parce qu'ils ont, donc, du coup, ils ont dû le mettre en néonat. Ils ont dû le sonder. Et j'ai passé ma première nuit sans mon mari et sans mon fils. Et ça... Bah, tu te demandes si ton enfant, il va mourir. Vraiment, non. C'est horrible. Alors, en néonat, ce qui est bien, c'est que tu peux appeler quand même.
Ah oui.
Bon, t'as l'impression de faire un peu d'embêter le monde. Mais bon, t'as peur que ton enfant meure, donc vraiment, c'est ça. Et tu peux, donc du coup, j'ai passé ma première nuit. Alors, je me suis dit quand même que mon fils le vivait sans doute moins bien que moi, hein, parce qu'il était tout seul, entouré de toutes ces machines. Voilà. Alors, ça, pour moi, sa place était auprès de Xavier et moi, quoi. Enfin, comme tout bébé qui naît. Sa place, elle est auprès de sa maman, elle est pas...
Bien sûr.
Et puis, pour moi, j'étais pas maman, en fait. J'avais plus mon fils dans mon ventre, et je l'avais pas auprès de moi. Alors, j'étais quoi? J'étais pas maman. Donc, on l'a vu le lendemain. On est allé en néonat, ce qui est un endroit qui est quand même assez froid.
Ah oui?
Ouais, pourtant, pourtant, on a tous ces bébés qui sont autour, alors on peut se dire, c'est un endroit chaud. Non, c'est... Déjà, on nous demande de mettre des masques, des charlottes. Non, c'est tout sauf chaleureux. Et puis en plus, tous ces bébés qui sont autour avec ces bip bip, il était dans une couveuse sondée avec des électrodes et en fait minuscules. Tout petit et maigre. Alors moi, ça me faisait pas... J'étais contente de le voir, mais on pouvait pas le prendre.
Ouais.
Et ça... Donc en fait, on fait connaissance avec son enfant que par la vue. C'est tout. C'est pas facile. Déjà qu'on l'a pas vu, qu'on n'a pas pu faire connaissance vraiment avec lui, avec ce peau à peau qu'on a avec son enfant, etc. Mais là, on nous le prive encore pour son bien, hein, on le sait bien, c'est sûr. Mais ouais, cette couveuse, en fait, est entre nous, quoi. C'est dur. Hein. Et puis on voit son enfant sonder. On ne devrait jamais voir son enfant comme ça, avec ses petites machines. Et tous ses enfants autour. C'est pas du tout la maternité comme on la connaît, où moi je suis allée voir moi des mamans avec leur enfant. C'est magique, c'est plein d'amour, c'est médicalisé. Alors tout le monde fait de son mieux, hein. C'est génial, hein. On accouche à Croix-Rousse, tout le monde fait de son mieux
à Lyon, donc
à Lyon, voilà. Mais en fait, on a beau faire de son mieux, c'est médicalisé. Après, on a été donc du coup en unité kangourou, c'est génial. Donc c'est dès que Raphaël a été un peu mieux, il était toujours sondé parce qu'il pouvait pas se nourrir. Raphaël, il a eu beaucoup de mal à se nourrir. Il a perdu beaucoup de poids, en fait. Il était en dessous des 2 kilos. Raphaël, il était à 1,9 kg. Donc il était nourri par sonde. Donc on était en unité kangourou et ça c'est super, c'est que j'ai pu dormir avec lui pendant un mois à peu près. On est resté en unité kangourou, donc c'est une unité kangourou, c'est un néonat. Donc un néonat a une unité kangourou en chambre. Donc on est resté là-bas pendant un mois. Alors c'est beaucoup de fatigue, etc. Mais ça permet aux mamans de rester avec leur enfant et de créer enfin ce lien avec son enfant. Ça fait un bien fou. On se sent enfin maman. Alors on est en chambre double, mais... On fait notre petit cocon comme on peut, en tout cas. Et on passe enfin notre premier mois là-bas, avec notre petit...
Mais tu rentrais pas chez toi, du coup, tu restais...
En fait, on peut pas.
D'accord.
On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir de visite à part de nos parents. On n'a jamais eu de visite. Et on n'a pas le droit de sortir dehors, de mettre le pied dehors. Parce que au niveau des bactéries, au niveau... Non, c'est quand même difficile.
Donc vous étiez, toi et le papa, là-bas pendant un mois ?
Xavier venait quand il pouvait, c'est-à-dire le soir après son travail. Mm. C'est un rythme... ça a été un mois intense.
Ouais.
Intense. En émotion, on essayait après, quand il a eu pu sa sonde, c'était au bout de, je sais plus, trois semaines peut-être. Trois semaines, puisqu'après, une fois qu'il a pu sa sonde, on a pu sortir rapidement. On essayait de le faire boire 10 millilitres de lait, 5 millilitres, après 10 millilitres. Ça a été vraiment... un néonat, c'est... un prématuré en néonat, c'est... Il faut le vivre pour vraiment... C'est tout petit, c'est... Ouais. Et il y en a qui naissent à 28 semaines, même moins. Ça, c'est hallucinant. Je pense que c'est un combat qu'on se rappellera toute notre vie.
Et alors, le retour à la maison, comment ça s'est passé ?
C'était amen. Ah. C'était... Ouais. On était enfin chez nous. Ah. Par contre, quand on est en unité en gros, on n'attend qu'une chose, c'est de rentrer chez nous. On était heureux. Super heureux de rentrer chez nous, de... Et puis, ce qui est bien en unité kangourou, c'est qu'après, on connaît tous les gestes, puisqu'on a toutes les infirmières. Donc, on était pareil, on savait tout faire. Il n'y avait aucun souci. Donc, on n'a pas du tout eu peur.
D'accord. C'est quand j'allais te demander si tu étais à l'aise.
Ah bah, sans problème.
Ouais.
Aucun souci. On est retourné par contre à l'hôpital un mois après, parce qu'il nous a fait une pyélonéphrite. Donc, on a été hospitalisé une semaine. Ouais, on a... Les débuts de rappel ont été difficiles. Mais après, tout a roulé.
Il a quel âge aujourd'hui ?
2 ans. Il y a eu 2 ans hier.
Et alors, comment ça se passe pour toi, la maternité liée avec ta maladie ? Comment tu gères ?
On s'adapte. C'est vraiment... franchement, c'est le mot. L'adaptation. C'est pas facile, mais quand on a un mari en or, c'est... Ah mais vraiment, je vais le souligner parce que je pense que si j'avais pas mon mari, je sais pas ce qu'il arriverait.
Ouais.
Les personnes malades qui ont pas un soutien derrière, que ce soit aussi la famille, mais nous on n'a pas beaucoup de famille à Lyon. Donc sans mon mari, moi je pense que je craquerais. Hein. Donc je suis à 2 ans, c'est quand même costaud.
Comment tu gères tes crises quand t'es avec ton fils ?
J'ai mon mari et sinon j'ai quand même pas mal mes crises la nuit.
Ouais.
Et Raphaël, je pense qu'il comprend quand même beaucoup les choses.
Mm-hmm.
Quand il était petit, je le mettais dans un parc, même s'il a pas beaucoup accepté le parc. Aujourd'hui je le mets à part, j'essaie de lui expliquer les choses. L'explication, je pense qu'il n'y a pas mieux quand même.
Tu communiques beaucoup avec lui?
Ouais. J'essaie de beaucoup communiquer avec lui. Mais très clairement, il m'arrive... là, le week-end dernier, j'ai pas mis le pied en dehors de ma chambre pendant du samedi matin au dimanche soir. C'est Xavier qui s'en est occupé. Hein.
Mm.
Parce que je peux pas. Donc c'est pour ça que je dis sans mon mari. Je sais pas ce que je ferais.
Et ton mari, au niveau du boulot, comment ça se passe pour lui ? Il travaille de la maison ? Comment il fait pour être disponible ?
Alors, Xavier peut travailler de la maison. Là, il travaille de la maison, par exemple. Ça, c'est pas mal parce qu'il y a des jours où... Alors, on a une nounou, hein, quand même.
D'accord.
Donc, ouais, oui.
Ok.
Ah, je pourrais pas, sinon. Oui, non. Clairement, là, pendant les vacances scolaires, on avait 3 semaines. Je dis vacances scolaires parce qu'il n'est pas encore à l'école, mais voilà. On a eu 3 semaines sans nounou. Ça a été très compliqué. J'ai géré les 2 premières semaines et la 3e semaine, j'ai craqué. C'est trop intense pour moi. Le bruit en fait déclenche mes crises. À 2 ans, un enfant, ça fait beaucoup de bruit.
Mmh.
Déjà, je sais parce que j'en ai parlé sur Instagram aux mamans, etc. Et je sais que c'est difficile pour elles. Mais donc pour moi, c'est super. La fatigue déclenche mes crises et le bruit déclenche mes crises.
Mmh.
Il m'a retrouvée en rentrant. J'étais en position fœtale dans la cuisine parce que j'avais des trop de crises sur crise sur crise sur crise sur crise et puis j'en peux plus quoi, je suis trop fatiguée. Et c'est très dur pour moi de me dire que mon fils, je veux pas dire ça comme ça, mais parfois me déclenche des crises. Alors, je veux pas dire que c'est un déclencheur, mais du moins certaines choses qu'il fait en tout cas déclenchent des crises. Donc il faut, encore une fois, il faut s'adapter quoi. Mais c'est aussi ça qui fait mon bonheur et c'est mon moteur. Donc voilà, il faut s'adapter. Voilà.
Et est-ce que c'est héréditaire, il y a des chances que ce soit héréditaire pour ton enfant ou pas?
C'est la question difficile. C'est héréditaire.
C'est héréditaire, d'accord.
Et ça, c'est aussi une question au niveau de mes proches qui a été pour comment ça se fait, comment tu peux faire ça.
Qu'est-ce que tu répondrais dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu réponds?
Je dis que déjà, ça peut sauter une génération et que je pense être la plus armée si jamais mon fils a cette pathologie. Je préfère que ça... Je veux pas, je veux pas que ça tombe sur lui, attention. Je dis juste que si jamais mon fils a cette pathologie, je préférais que ce soit que ça tombe dans ce genre, dans notre famille à nous, et que je pense que oui, je suis la plus armée pour lui expliquer. Si jamais ça tombait sur une autre famille, il pourrait pas être diagnostiqué. Voilà. Après, bien sûr, je préférais qu'il n'ait pas cette pathologie, c'est évident.
Et quand est-ce que tu pourras savoir?
On m'a proposé de faire, quand j'étais enceinte, une amniocentèse. Mmh. Mais bien sûr, il y avait des risques de fausse couche. Mmh. Donc j'ai refusé. Encore une fois, certaines personnes ne l'ont pas compris. Mais c'est quelque chose qui est très personnel. Et en fait, quand on m'a proposé, je voulais pas le savoir et me dire ah bah il a ma pathologie, j'allais dire notre pathologie parce qu'on vit tellement ensemble avec Xavier, et que ça allait gâcher notre grossesse. En fait, on le saura bien assez tôt et je sais pas si j'ai envie de savoir parce que on est très à la, enfin on regarde, je connais très bien ma pathologie, et si jamais il y a des signes, je le verrai bien assez tôt. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de le savoir et d'être là tout le temps? Peut-être qu'il a mal, alors c'est peut-être qu'il l'a et ça va jamais
se déclarer.
Faut mieux profiter, et puis voilà. Ça me fait peur, hein, mais j'ai pas envie justement de vivre encore plus avec cette peur. Je préfère profiter des moments avec mon fils, et puis voilà. Puisque ça sautera sûrement une génération.
Et est-ce que tu as rencontré d'autres mamans qui ont la même maladie, qui vivent leur maternité comme toi?
Oui, plusieurs. J'aime beaucoup parler d'ailleurs avec, que ce soit des mamans ou des personnes qui... des femmes ou des hommes d'ailleurs, qui ont... c'est ça. Des malades. Parce qu'on on apprend énormément, en fait. Et puis, on se conseille. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, je connais pas mal de personnes. Et d'ailleurs, leurs enfants n'ont pas spécialement la pathologie. J'en connais vraiment peu qui ont la pathologie. Donc, comme quoi, c'est pour ça. Autant vivre et puis... ne peut-être pas se poser trop la question.
Et est-ce que l'État t'aide au quotidien, financièrement
Eh bien, tu m'aurais posé la question l'année dernière, je t'aurais dit non, et puis ça m'aurait... Eh bien, maintenant, oui. Enfin, j'ai été déclarée adulte handicapée, alors je l'avais avant ce statut, mais maintenant, à plus de 80%, et je touche l'AAH, et je me suis vraiment battue pour ça. Et j'en suis contente, parce que c'est pas facile, mais... je sais que pour beaucoup, c'est pas simple et que l'État n'aide pas, mais il faut continuer à se battre. Et ce statut, si on. Il faut. C'est pas facile. En fait, il faut être déclaré à plus de 80% et l'AAH permet d'aider.
D'avoir des indemnités chaque mois.
Tout à fait. Ah oui, nous on a. Parce que je peux pas travailler. Ouais. Donc sinon, on vivait sur un salaire quand même avant. Donc c'était quand même très compliqué.
Et comment t'occupes tes journées alors?
Tu vois, par exemple cette semaine, j'ai dormi, ce qui est assez hallucinant. Donc j'amène Raphaël à 11h chez la nounou, donc j'ai quand même la matinée avec lui, parce que je l'adore nos matinées. Et après l'électrode que j'ai au niveau du cerveau a un grand rôle au niveau de l'hypothalamus, donc au niveau des hormones, du sommeil, etc. Et du coup, quand je rentrais, j'avais donc les yeux qui me fatiguaient énormément. Et je dors de midi à 18h. C'est mon mari qui me réveille.
Ah ouais.
Voilà. Et je suis épuisée. Donc ça dépend vraiment des semaines. Donc il y a des semaines où je dors tout le temps. Et je suis épuisée. C'est vraiment pas de la fainéantise, c'est que je suis épuisée. Et t'as des semaines où ça va à peu près. Et du coup, je fais mon ménage, je m'occupe des affaires de mon fils. J'ai un blog sur internet avec beaucoup de malades que j'essaye d'aider, un groupe aussi que j'essaye d'aider. Franchement, j'ai de quoi faire. J'essaie de faire des balades aussi. Le mercredi, mon fils, je le mets plus tard, je le mets que l'après-midi. Donc il y a de quoi. Ouais. J'ai toujours des choses à faire.
Et qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Tout. Ah, si. Mais j'essaye de me dire comment, en fait, j'ai pu vivre sans mon fils. Parce que. En fait, je me dis, mais ma vie était comment sans lui ? Mais je pense que c'était comme ça pour tout le monde. C'est notre raison de vivre, Raphaël. Il a. Déjà, ça me permet de. Une raison de plus de me lever le matin, de mon combat, notre combat, avec Xavier. Et puis. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis oui, non, ça n'a plus rien à voir la vie. De toute façon, quand on a un enfant, je pense que notre vie n'a plus rien à voir.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ouais.
Alors, c'est quoi pour toi être une maman lyonnaise ?
Alors, donc nous, on est en campagne lyonnaise. Donc nous, c'est les balades, la campagne, les chevaux. On adore se balader, profiter. Nous, c'est toujours de toute façon profiter, surtout le week-end, et faire des énormes balades avec Choupi.
Quel est ton endroit kids friendly préféré ?
Ma maladie m'empêche de faire pas mal de choses, mais nous, c'est toujours, on fait des énormes balades, que ce soit en forêt ou dans le Beaujolais, c'est un peu la même chose. On va dans les vignes, etc., on adore.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Peut-être que je m'oublie un petit peu, tu vois, là. Tu viens de me mettre une colle parce que j'ai pas beaucoup de projets, rien que pour moi. Alors, des projets en famille, peut-être. Tu demanderais ça à Xavier, il te dirait un deuxième direct. Voilà, moi je serais beaucoup plus réservée sur le sujet, mais bon, pourquoi pas. Un deuxième, pourquoi pas. Allez.
Merci beaucoup, Diane.
Merci à toi.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Diane, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 38 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.